Plus de 2 mois après le début de l'invasion russe en Ukraine, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a proposé cette semaine un 6e paquet de sanctions contre la Russie avec une décision inédite, renoncer à l'ensemble des importations européennes de pétrole russe et donc tarir une source de financement de la guerre, affaiblir Poutine. Le président russe qui va célébrer lundi, le 9 mai, la victoire contre le nazisme en 1945 et qui pourrait être tenté d'accélérer l'offensive sur le terrain pour afficher une victoire. Pour faire le point, dans ce 13-14 sur France Inter, Anna Colin-Lebedev, maître de conférence en sciences politiques à l'Université Paris-Nanterre, spécialiste des sociétés post-soviétiques. Bonjour.
Bonjour.
Les auditeurs peuvent vous poser leurs questions au 01 45 24 7000, également sur France Inter dans la rubrique Réagir, franceinter.fr. Anna Colin-Lebedev, le 9 mai, jour de la victoire pour la Russie, mais la Russie, dans ce conflit avec l'Ukraine, n'en est pas là.
En effet, il n'est pas impossible qu'au moment de déclencher l'offensive fin février de cette année, Vladimir Poutine s'attendait à ce que le 9 mai soit l'occasion d'afficher une grande victoire. En réalité, effectivement, la situation s'est enlisée sur le terrain. Les objectifs initiaux que le Kremlin s'était fixés n'ont pas été atteints. Donc il va falloir, d'une manière ou d'une autre, mettre en scène cette situation qui n'est pas tout à fait glorieuse.
Alors, est-ce que le soutien occidental, la montée en puissance de l'aide militaire occidentale ralentit cette avancée russe, comme le dit Poutine ?
On a plusieurs éléments en fait qui ont joué dans la l'échec de la Russie à atteindre son objectif d'invasion massive du pays, de changement de pouvoir à la tête de l'État ukrainien. Il y a effectivement le soutien dont a bénéficié l'armée ukrainienne, mais il y a deux autres éléments. Il y a la transformation de l'armée ukrainienne elle-même, hein, qui est beaucoup plus en état de combattre aujourd'hui qu'elle ne l'a été en 2014 au début de la guerre. Et puis surtout, il y a l'état de l'armée russe. Le pouvoir russe, tout comme nous, hein, on a été désinformés d'une certaine manière. On n'avait pas du tout conscience de l'impréparation de cette armée, impréparation des matériels, mais aussi impréparation humaine, manque d'organisation, manque de compréhension de ce qui se passe sur le terrain. En fait, la combinaison de tous ces éléments ont fait que la guerre dure désormais et s'installe dans une situation que la Russie n'avait pas anticipée.
Alors, est-ce que justement le 9 mai, jour de la victoire, où Vladimir Poutine doit aussi prononcer un discours, il doit y avoir un défilé également à Moscou, est-ce qu'il pourrait changer de ton et par exemple faire une déclaration officielle de guerre, hein, jusqu'ici il n'a pas déclaré la guerre, il faut le rappeler, et on parle d'opération militaire spéciale. Est-ce qu'il pourrait y avoir changement de discours ?
C'est une question que l'on se pose. Bien évidemment, Vladimir Poutine ne pourra pas se passer de mentionner la guerre en Ukraine au cours de ces célébrations du 9 mai, ne serait-ce que parce que le parallèle avec la Deuxième Guerre mondiale est constamment pointé par le Kremlin. On affirme que les Ukrainiens sont des néo-nazis héritiers du nazisme du milieu du XXe siècle et que donc la Russie est engagée dans une opération similaire à celle de la Deuxième Guerre mondiale. Alors aujourd'hui, il y a effectivement un certain nombre de sources dans les renseignements de différents pays qui pointent la possibilité de déclaration de guerre et puis d'autres qui disent qu'en revanche, alors déclaration de guerre ou pas, parce que les deux ne vont pas forcément en parallèle, l'idée d'une mobilisation de la population, par exemple, ne semble pas être à l'ordre du jour. Hein. C'est-à-dire que même si la guerre était déclarée, d'un point de vue légal, ça suppose des changements dans le fonctionnement politique du pays, avec une centralisation encore plus forte du pouvoir, un certain nombre de changements économiques. Il n'est pas impossible que la Russie y soit préparée, mais je dirais que sur le fond, à mon sens, si ça ne s'accompagne pas d'une mobilisation de la population, une déclaration de guerre aurait un caractère très déclaratif en fait.
Oui, parce qu'effectivement, déclarer la guerre, ça voudrait dire aussi faire appel aux réservistes et peut-être que là, la population russe pourrait coincer aussi ou mal réagir.
Alors, il y a plusieurs options en réalité, c'est-à-dire que le pouvoir russe pourrait, en déclarer une mobilisation partielle, hein, c'est-à-dire dans certaines régions du pays ou alors auprès de certaines spécialités dans le civil qui seraient particulièrement utiles dans le domaine militaire, mais il n'est même pas certain en réalité que l'armée russe en soit là. Hein, c'est-à-dire que, l'État russe et l'armée ne sont pas forcément prêts à préparer, à former, à armer et à envoyer sur le terrain aujourd'hui des civils. Et puis, effectivement, la société elle-même pourrait réagir très vivement, en réalité, à la déclaration d'une mobilisation. Parce que c'est une chose de déclarer, quand on vous le demande, que vous soutenez l'action de votre pays en Ukraine, l'action de libération du pays des envahisseurs nazis. C'est une autre chose quand vous réalisez qu'il va vous falloir prendre les armes pour aller mourir sur le terrain. Hein. Et la population russe, en dépit de ces déclarations patriotiques, en réalité, les gens sont très attachés en fait à ce que l'État n'intervienne pas dans leur sphère privée et ne leur demande pas de sacrifices qui les touchent personnellement.
Alors, selon les renseignements ukrainiens, pour ce 9 mai, il pourrait aussi y avoir un défilé de moindre ampleur à Marioupol, la ville assiégée qui est sur le point de tomber. Ce serait un moyen symbolique pour Vladimir Poutine de s'affirmer, de montrer que les choses avancent malgré tout.
Le pouvoir russe joue énormément sur la mise en scène filmée et la mise en scène présentée à la population. Hein. Je dirais que voilà, c'est la guerre a lieu pour l'essentiel des Russes dans les images qui sont transmises par les médias d'État. Et je dirais le récit de cette guerre est tout à fait différent de celui que nous avons dans nos médias. Les Russes voient une opération humanitaire de libération où l'armée est bien accueillie. Et donc, bien évidemment, Marioupol sera montré, parce que Marioupol est la seule grande ville dont la Russie a réussi à prendre le contrôle. Et donc, Marioupol sera certainement mise en scène comme heureuse d'une libération de sa population par l'armée russe. Il n'est pas impossible, effectivement, qu'il y ait des défilés organisés. On parle même de choses, je dirais, voilà, plus graves du point de vue du droit international de la guerre, comme des défilés de prisonniers. Des défilés de prisonniers, nous en avons vu à Donetsk, au début de ce conflit armé, il y a 8 ans, hein, les séparatistes ont fait défiler des prisonniers ukrainiens. Aujourd'hui, on craint ce type de mise en scène un petit peu, enfin, macabre et peu respectueuse du droit international.
Dans les démonstrations de force aussi, il y a aussi cette banalisation de la menace nucléaire ces derniers jours, la multiplication de ces menaces aussi, des simulations de tirs. Il faut s'en inquiéter.
Alors, des simulations de tirs et des manifestations de la puissance militaire, on en a déjà eu depuis des années. On en aura encore dans ce 9 mai. Il faut s'attendre à ce que la Russie exhibe, voilà, toutes ses armes nouvelles, même celles qui sont sous forme de prototypes potentiellement menaçantes pour l'Europe. Pour ce qui est de la menace nucléaire, je pense qu'il faut distinguer pour l'instant le discours des médias et le discours du pouvoir. Hein. Les médias ont beau être contrôlés par le Kremlin, ils ne diffusent pas complètement un discours de politique officielle. Et donc, effectivement, les médias parlent aujourd'hui, et les journalistes les plus en vue des talk-shows ont pas mal parlé de la possibilité d'utiliser l'arme nucléaire. Il faut se dire que ce n'est pas nouveau. Hein. Depuis 2014, hein, depuis le début de cette guerre, on entend les principaux propagandistes dans les médias dire « Attention, nous avons l'arme nucléaire », et puis montrer, voilà, dans des animations produites par ordinateur, les dégâts que ferait l'arme nucléaire. Mais effectivement, les médias russes, et par l'intermédiaire des médias le pouvoir, sont en train de préparer la population à une possible amplification de la guerre. À l'idée qu'on est dans un conflit majeur, que ça ne se limite pas à l'Ukraine, que le vrai adversaire c'est l'Occident, et que l'escalade n'est pas impossible.
Anna Colin-Lebedev, l'Union européenne tente de mettre en place un nouveau train de sanctions hein, cette semaine, notamment un boycott du pétrole russe. On a Gilles qui nous appelle de Lyon qui a une question à vous poser. Bonjour Gilles.
Oui, bonjour France Inter. Alors moi, si vous voulez, contrairement à ce qui se dit, on ne va pas crier victoire par rapport aux sanctions, parce que de ce que j'ai lu, il y a beaucoup de pays tout autour qui aident la Russie à contourner les sanctions. Ne serait-ce que les pays du Moyen-Orient, bon, la Chine, ce qui paraît évident, et puis tous les pays qui n'ont pas voulu condamner l'agression russe, qui sont quand même entre les deux, certains qui aident, d'autres qui attendent. Donc pour moi, les sanctions sont incomplètes, et puis je voulais faire un parallèle très rapide entre ce qui s'est passé à Stalingrad avec l'armée nazie qui était là, et ce que font les Russes qui essayent de complètement détruire des villes pour qu'il n'y ait plus personne et pour, dans certains cas, emmener les habitants en tant qu'otages. Voilà, c'était l'intervention que je voulais faire.
Merci Gilles, qui nous appelait de Lyon, Anna Colin-Lebedev, sur l'impact véritable des sanctions européennes.
Alors Gilles a raison, hein, y a pas mal de pays qui se sont, disons, abstenus ou qui se sont prononcés pour le soutien de la Russie. Cependant, entre afficher son soutien et se substituer aux relations commerciales avec que la Russie a aujourd'hui avec l'Union européenne, il y a un décalage. Hein. Et même si la Russie souhaitait un décentrage de son économie, hein, importer davantage depuis d'autres pays ou exporter davantage ses hydrocarbures dans d'autres pays, disons la transition n'est pas si simple. Hein. Il n'y a pas forcément les marchés, il n'y a pas forcément les infrastructures non plus pour le transport, si on pense notamment au gaz. Pour ce qui est des relations commerciales, effectivement, on peut avoir l'impression que voilà, on a mis en place quelque chose de très massif, et notamment les entreprises. Ça c'est autre chose que les sanctions, mais les entreprises occidentales qui se sont retirées de la Russie, et bien au final, on n'a pas l'impression de voir l'impact. En réalité, l'économie russe est profondément atteinte, et elle est profondément atteinte dans ses capacités de développement, dans ses capacités de production et dans ses capacités de maintien de ce qui existe actuellement. Sauf que si vous voulez, là il faut le temps que la vague s'amplifie. Hein, c'est-à-dire que l'économie russe a déjà été touchée, mais le séisme a déjà eu lieu, mais la vague n'a pas encore atteint tous les secteurs et tous les territoires. Mais il est certain aujourd'hui qu'en Russie on sent déjà les indicateurs sont bien évidemment tous au rouge. On avait une économie qui semblait puissante, mais qui est néanmoins extrêmement dépendante de son insertion internationale, aussi bien dans son dépendante pour trouver un marché pour ses produits, mais aussi très dépendante de nos technologies, de nos matières premières, de nos savoir-faire et des partenariats avec nous.
Est-ce que la population russe est informée de ces sanctions et de quelle manière ?
Alors la population russe est informée des sanctions, mais pas forcément de l'impact des sanctions. Et je dirais que pour l'instant, ces sanctions s'inscrivent dans un récit cohérent d'un Occident qui est en guerre contre la Russie. Donc ça paraît logique, voilà, l'arme économique est utilisée. Il est certain que les Russes ne le sentent pas encore énormément. Hein. L'inflation est déjà très importante, les prix ont augmenté, mais par exemple le chômage pour l'instant a augmenté de manière peu significative parce que le marché de l'emploi est maintenu artificiellement. Les entreprises ont stoppé leurs activités pour certaines parce qu'il n'y a plus de composantes, parce qu'il n'y a plus de quoi payer. Mais en revanche, l'État les force à continuer à payer les salaires. À un moment donné, voilà, la ressource manquera pour tout ça et l'impact sera beaucoup plus important.
Une question très rapide pour terminer avec Patrick à Rouen. Bonjour Patrick.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Allô ?
On vous écoute Patrick, on vous entend.
Oui, je voulais poser une question en ce qui concerne la mer Noire, la mer de Marmara, la mer Égée, enfin bref, les communications entre la mer Noire et la mer Méditerranée. Est-ce que la Turquie joue son rôle qu'elle a depuis la convention de Montreux en 36 est-ce qu'elle laisse passer tout le monde ou personne ou certains et pas d'autres ?
Anna Colin-Lébédef.
Je vous avoue que je ne suis pas complètement compétente pour répondre à cette question, étant une spécialiste de la Russie et non pas du droit maritime et de la Turquie. Il est certain que aujourd'hui les Ukrainiens vont affirmer un rôle particulier joué par la Turquie, notamment dans l'armement de fourni à l'Ukraine. Donc on parle beaucoup des Turcs aujourd'hui dans les médias ukrainiens, notamment pour les louer pour les drones qui permettent aujourd'hui à l'Ukraine de détruire massivement des blindés et autres armements russes.
Merci beaucoup Anna Colin-Lébédef, maître de conférence en sciences politiques à l'Université Paris-Nanterre, spécialiste des sociétés post-soviétiques. Merci d'avoir été sur France Inter ce midi.